France Inter. France Inter. Le 6-9 du week-end.
Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
On parlait des allergies tiens, dans le journal avec Laurence Thomas, le cyprès, les allergies. Le cyprès, il y a d'autres arbres hein, qui nous donnent de l'allergie.
Le boulot est redoutable, mais je crois que tous les arbres sont plus ou moins porteurs d'allergies, oui bien sûr.
Alors ce matin, vous souhaitez rendre hommage à Alain Baraton, à Éric Borja qui nous a quittés il y a quelques jours.
Oui, Éric Borja, le grand maître incontesté du jardin japonais. Pour respecter au mieux sa philosophie, j'ai choisi de vous lire un très court extrait de son livre publié en 2014 aux éditions Ulmer, du bon usage, du jardin zen. Dans l'espace du jardin de méditation, l'artifice est total. Nous quittons le monde réel pour le monde flottant de l'imaginaire, la vision subjective d'un paysage. Il nous faut, pour apprécier correctement ce concept, lâcher prise d'avec la réalité, faire le vide dans notre esprit, prendre le temps de s'asseoir si possible en silence et voyager par le regard d'une pierre à l'autre, d'arbre en buisson, chaque détail participant à l'harmonie générale.
Alors Éric Borja nous lègue un savoir manifestement et son œuvre principale évidemment son jardin.
Oui, le jardin zen qui est situé sur la commune de Beaumont-Monteux dans le département de la Drôme. Il est incontestablement l'un des plus beaux de France et reste ouvert par respect pour son créateur. Je vous invite à le découvrir ou y retourner pour apprécier sa beauté et constater ô combien le minéral, le végétal et l'eau sont en harmonie. Éric Borja avait 81 ans et a pour de vrai quitté le monde réel pour le monde flottant de l'imaginaire.
Alain Baraton, vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter. Juliette vous demande comment faire pour avoir davantage de violettes sur ma pelouse.
C'est beau les violettes, on fait des petits bouquets et on les offre à ses amoureux et à ses amoureuses. Et c'est très agréable.
Ça se fait plus.
Mais vous plaisantez
si.
Ou quoi?
Vous
n'avez pas du tout la fibre romantique, je trouve. Bien sûr que ça se fait.
Alors.
Karine, les violettes se sèment en été, donc en juin, hop, vous semez sur votre pelouse de la violette et vous cessez de tondre de manière un petit peu trop violente. Laissez donc la violette s'exprimer. Elle monte, elle fait des fleurs, elle fait des graines et les graines vont donner naissance à d'autres violettes. Donc on les sème en juin, on peut les repiquer en automne et on arrête de tondre et on aura beaucoup. Beaucoup, mais vraiment beaucoup de violettes sur sa pelouse. Et on se rappellera la chanson de Luis Mariano, L'amour est un bouquet de violettes, vous vous rappelez?
Ah oui,
l'amour est un bouquet de violettes.
Cela dit, Alain Baraton, il va bien falloir tondre la pelouse à un moment.
Oui, mais arrêtons de tondre trop court.
Voilà,
arrêtons de vouloir des greens.
Si
vous avez besoin de verre sous vos fenêtres, peignez le sol, mais ne mettez pas de l'herbe.
Ça tient longtemps les violettes,
oui,
une fois qu'on les a coupées.
Ouais. Une belle violette peut fleurir pendant plus d'un mois, mais c'est magnifique ces tapis de violettes, c'est très très beau.
Georgina vous demande, Alain Baraton, est-ce le bon moment pour composer des bouquets secs avec des fleurs d'hortensia?
Un petit peu tard, les bouquets secs avec des fleurs d'hortensia se font lorsque les fleurs commencent à sécher. Alors on les coupe à ce moment-là, on les suspend dans un local frais, sec et aéré, la tête en bas, et on évitera de toutes les couper sur le pied, de faute de quoi l'hortensia l'année prochaine ne refleurira pas, mais on le fait quand les boules commencent à sécher.
Et quand c'est sec, les boules d'hortensia perdent leur couleur bleue
ou
rose.
Elles gardent un petit côté rose, un petit côté bleu, mais ça s'estompe avec le temps. Et ça devient ensuite très rapidement un nid à poussière. Mais ça c'est un autre sujet.
Emma, sur sa terrasse, Emma possède un framboisier remontant et un cassissier. Et elle se demande si les températures négatives qui pourraient bien arriver un jour vont abîmer ces cassissiers et framboisiers.
Mais ça passe l'hiver, ça, alors, cassissier, framboisier.
Pour vous donner une idée, pour savoir si le cassissier résiste au froid, sachez que les premiers producteurs en Europe de cassis sont la Pologne et la Russie.
Donc a priori,
vous dire
ça passe.
Apparemment, il n'y a pas de problème. Pour le framboisier aussi, juste une petite précision à propos de la framboise. La framboise, nous sommes du temps des Grecs, autrefois était blanche. Et Ida est une jeune nymphe, elle a pour mission de garder le dieu Jupiter. Mais Jupiter, enfant. Mais Jupiter, il n'arrête pas de pleurer, elle ne sait pas quoi faire pour le calmer. Alors Ida monte sur le mont qui aujourd'hui porte son nom, elle cueille des fraises qui sont à l'époque blanches.
Des fraises ou des framboises?
Des framboises, pardonnez-moi. Mmh. Mais en se penchant, elle se pique le sein avec l'une des épines, car les framboisiers sont épineux, et le sang coule sur la framboise. Voilà pourquoi aujourd'hui les framboises sont rouges.
Belle histoire.
Il était remont, le petit Jupiter, donc.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et puis après, vous avez des infos là-dessus?
Bah voilà, j'ai des infos sur beaucoup de monde, vous savez. Méfiez-vous.
Allez, on reste concentrés.
Zen, à propos de la main de Bouddha, est-ce que elle se cultive comme les autres agrumes?
Oui, alors la main de Bouddha, c'est un
agrume. C'est une
orange qui a une forme de main, quoi, avec, mais avec plusieurs doigts, 7, 8, 10, c'est assez étonnant. C'est très
jaune,
agréable.
C'est jaune, hein.
C'est jaune, jaune, orange. Oui. C'est assez agréable. Mais le pied, lui, est très frileux. En dessous de 5 degrés, généralement, il décline. J'ai pas dit moins 5, j'ai pas dit 0. 5 degrés, il commence à décliner. Autant vous dire qu'il a besoin de soleil et vraiment de température clément tout au long de l'hiver. Mais si vous le permettez, je fais justement la transition avec un ouvrage de Damien Blasco, Zeste et Geste, publié aux éditions Éric Bonnier. Cet homme qui est un collectionneur d'agrumes, eh bien, parle de tous les agrumes, ce que l'on en fait, comment on les entretient. Des grands chefs cuisiniers donnent leur avis sur l'agrume, mais on parle de cuisine, on parle de tout, même des purins d'ortie. Zeste et Geste de Damien Blasco aux éditions Éric Bonnier.
On a encore une question d'auditeur.
Ah bah allons-y.
Alain Baraton. Martin voudrait savoir s'il est possible d'assainir un terrain pollué en y plantant des arbres.
Oui, mais en se souvenant que les arbres vont absorber la matière polluée mais la stocker, ne pas la détruire. Donc cela va régler en partie le problème, mais ce n'est pas la solution à 100%. J'en profite pour
ça rappeler... Ça veut dire que si l'arbre fait des fruits, il faut éviter de les consommer.
Non, pas forcément, parce que l'arbre ne va pas retransmettre les produits qu'il a absorbés dans le sol. C'est très complexe. Mais généralement, ce ne sont pas les arbres fruitiers qui vont le mieux dépolluer ou participer à l'assainissement d'un sol. Mmh. C'est par exemple le bouleau, on y revient à nouveau. Mais souvenez-vous que dans l'est de la France, sur les de lieux comme Verdun, quantité d'arbres ont été plantés, justement, là où il y avait eu quantité de produits terribles déversés sur le sol pour éviter justement d'avoir besoin d'assainir le terrain. L'arbre ne permet pas totalement d'assainir le sol, mais il évite au moins de cultiver dessus. Donc c'est une manière d'améliorer l'environnement.
Une dernière question, mais elle est plus personnelle, celle-là. J'ai lu ce matin dans la presse comment la nature était déboussolée en ce moment par les douceurs, notamment ce week-end encore, à Versailles. Vous êtes déboussolé, vous aussi, par cette douceur ?
Non, parce qu'à Versailles, tout fonctionne de manière très réglée depuis 400 ans. Les orangers, par exemple, sont rentrés en octobre, ils sont sortis en mai, ils sont protégés dans des orangeries de température constante. Nous ne sommes pas déboussolés, mais les plantes, elles le sont, parce que comment voulez-vous qu'un arbre ne réagisse pas à cette abus de lumière, il y a du soleil, les capteurs végétaux sont un petit peu affolés. Le danger, c'est pas tellement le radoucissement d'aujourd'hui. La plante s'en fiche complètement, non. C'est le froid demain qui risque de revenir, et là, de faire des dégâts sur une végétation qui commence à frémir.
Eh bien, vous le tenez, le thème d'une prochaine chronique.
Avec joie, mon cher
Alain Baraton. Merci Alain, et à demain.